Action citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Bienvenue dans votre émission Rap Slam Poésie, une émission dédiée à la poésie et aux jeunes. Je suis votre animateur Jackson et je suis accompagné de United Cray et de Jean-Pierre Polak. Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui dans cette exploration poétique. Dans cette émission, nous allons plonger dans l'univers de la poésie, nous allons discuter de son évolution, de la façon dont elle s'est transformée au fil du temps. Nous allons parler de la poésie et de nouveaux styles tels que le rap, le slam, qui peuvent être une voix puissante pour exprimer nos émotions, dénoncer les injustices et offrir un cadre permettant aux artistes de s'exprimer librement. Alors, accrochez-vous, je vous amène dans un pays où les mots sont rois avec ces titres que je vous laisse découvrir.
Si je ne pouvais écrire, je serais muet, condamné à la violence dans la dictature du secret, submergé par tous ces sentiments sans mots. Je m'effacerais comme une mer sans eau. Ma vie ne serait pas la même. Aussi vrai que j'aurais pu prendre la tienne. Mon talent s'est corrompu dans l'illicite, où les instants de bonheur sont des éclipses lorsqu'ils ne sont pas des ellipses. Alors j'ai écrit dans l'urgence, comme si ma vie en dépendait, sous les sirènes des ambulances. J'ai écrit par instinct, par survie. Je me suis surpris à écrire afin de supporter la vie. Yeah. Trop de moi dans mes écrits. Peut-être que je n'écris plus, je m'écris. J'abandonne mon être à mes lettres, car l'écriture sans âme n'est que l'être. Je n'écris pas que pour m'oublier. Parfois j'écris pour qu'il ne puisse jamais oublier, pour qu'il ne puisse jamais nier. Le martyr des braves, soudain j'écris des volcans que je grave à l'encre de l'âme. Je ne fais de la musique que pour vibrer, faire vibrer les cœurs. Et je n'écris que pour dire vrai. Si je n'avais su les mots, que serais-je sur le banc des mélancoliques? Ma poésie siège.
Entre le marteau et l'enclume, j'ai dû aiguiser ma plume. Quand je suis perdu dans la brume, je vais chanter mon amertume. Alors j'écris. J'ai pas de joie, j'écris.
Comme une dédicace au slam, ça commence à cappella. Toutes ces voix qui décrassent l'âme, toutes ces voix qui m'ont amené là. Si tout à coup mes mots s'envolent, c'est parce que le beat atterrit. Moi j'ai pris ma plus belle plume pour pouvoir répondre à Kerry. Et quand le piano redémarre, c'est pour souligner nos errances. Si j'écris, c'est pour mettre face à face mes regrets, mes espérances. Seul sur scène, face à la salle, ne crois jamais que je me sens supérieur. Si tu ne vois jamais mes larmes, c'est parce qu'elles coulent à l'intérieur, c'est vrai. Y a très peu de certitude dans mes écrits. Mais si je gratte autant de textes, c'est que mon envie n'a pas maigri. Envie de croire qu'à notre époque, les gens peuvent encore s'écouter. Là où j'habite, y a trop de gamins que la vie a déjà dégoûté.
J'écris
parce que les épreuves m'ont inspiré. J'écris comme tous ces mômes que le bitume a fait transpirer. S'il y a tant de jeunes dans nos banlieues qui décident de remplir toutes ces pages, c'est peut-être que la vie ici mérite bien quelques témoignages. J'écris parce qu'il suffit d'une feuille et d'un stylo. Même le dernier des cancres peut s'exprimer, pas besoin de diplôme de philo. J'écris surtout pour transmettre, et parce que je crois encore au partage, à l'échange des émotions, à un sourire sur un visage. Alors non, on changera pas le monde, on est juste des chroniqueurs d'un quotidien en noir et blanc qu'on essaye de mettre en couleur. Mais si on change pas le monde ne nous changera pas non plus. On a du cœur dans nos stylos et la sincérité comme vertu.
J'écris, entre le marteau et l'enclume, j'ai dû aiguiser ma plume.
retour à l'antenne sur la Radio Campus 88.3 avec votre émission Rap, Slam et Poésie. On va faire un petit tour des tables pour vous présenter nos invités. On commence par Jean-Pierre Polak. Est-ce que tu peux te présenter et de nous parler un peu de ton parcours, s'il te plaît?
Oui, bon, alors on me connaît peut-être un petit peu sur les antennes de Radio Campus puisque j'anime maintenant depuis 3 ans au moins, même plus, l'émission Pause Poésie. Donc, personnellement, eh bien, je suis retraité de l'éducation nationale et je m'occupe de poésie. C'est mon activité essentielle. Je fais partie d'une association importante qui s'appelle la Société des poètes français. Elle est née en 1902, donc c'est quand même une référence. Le siège est à Paris et on s'occupe d'essayer de faire vivre la poésie par des animations, par des conférences, par des lectures, par des festivals, par beaucoup de choses. Et je considère aussi qu'en faisant cette chronique Pause Poésie à Radio Campus, eh bien, je participe un petit peu à ce mouvement-là.
Justement, en parlant de la poésie, est-ce que tu peux nous présenter, je dirais, ton parcours poétique, en fait, si tu as des recueils que tu as déjà écrits?
Oui, oui, bon, bien sûr, si je m'occupe de poésie, c'est que la poésie me touche. Je pense que j'ai commencé à écrire très tôt, comme tout le monde, hein, adolescent, les petits poèmes énamourés du premier flirt et tout ça, et puis ça s'est structuré un petit peu. Et puis là, actuellement, j'ai publié 4 recueils de poésie, voilà, qui sont publiés à la Société des poètes français. Alors, il se trouve que je m'occupe particulièrement des éditions dans l'association, mais j'essaye de faire en sorte de ne plus être publié à la Société des poètes français pour ne pas entrer dans un conflit d'intérêts. Voilà, donc oui, à titre personnel, j'écris tout le temps, régulièrement. Je pose mes textes sur un réseau social.
Oui, c'est ça.
Voilà. Je sais pas si on peut donner son nom, mais c'est le plus célèbre maintenant qui est passé de mode chez les jeunes. C'est devenu le réseau social des anciens, paraît-il. Donc c'est là que je pose régulièrement mes textes. Voilà.
D'accord. Quand même, 4 écueils, c'est énorme.
Non. À la Société des poètes français, j'ai des amis qui ont publié 20, 30 recueils. Voilà, non, j'ai commencé tard ma vie professionnelle s'est arrêtée en 2016. J'ai vécu longtemps à l'étranger. Je suis rentré en France en 2000. Disons que c'est à partir de 2008 que j'ai commencé à publier, quoi.
D'accord, merci Jean-Pierre Polak pour ta présentation. Et on poursuit avec Unity Cray. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe et quand est-ce qu'il a été créé?
Alors en vrai, Jackson, je pense que tu connais un petit peu le Unity Crew parce qu'il me semble de mémoire que j'ai eu à mixer un Tesla avec Sans Blagues.
Oui, je connais bien. Ouais. Nos auditeurs aimeraient bien connaître en fait le groupe.
Bah, notre groupe, il a commencé il y a 8 ans de ça avec Gaëtan, avec 0 expérience, hein, même une expérience négative, on va dire. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à apprendre un peu à écrire, à structurer, à composer aussi, et puis après à kicker, à chanter, pour mettre en avant justement la musique, la poésie, et ce qui nous anime au plus profond de nous, nos styles respectifs. Donc voilà, moi c'est Sunman, ouais. Je suis l'un des fondateurs avec mon co-alcoolite Slam.
Co-acolyte, ça existe ce mot?
Quoi?
Ouais, c'est
un peu redondant. Okay.
Et je voulais savoir comment vous vous êtes connus.
Eh ben, on s'est rencontrés, on commençait à traîner ensemble au Parc Pasteur. Et puis, de fil en aiguille, à force d'écouter de la musique, on s'est rendu compte qu'on avait quasiment les mêmes goûts musicaux, en fait.
Les mêmes refs.
Et puis, carrément, ouais, c'est ça. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer sur du rap, en fait. Et il a commencé à faire du beatbox devant moi. Moi, je commençais à lâcher quelques mots, quelques petites phases marrantes. On ne se prenait pas vraiment au sérieux au début. Et puis, avec le début des scènes ouvertes, on s'est dit pourquoi pas. On a commencé à se prendre en vidéo, à rencontrer quelques personnes qui étaient du métier autour de nous. Et puis, on a commencé petit à petit à faire nos propres scènes, nos propres open mic. Et récemment, on a sorti un projet, une tracklist de 11 titres et un clip sur les réseaux.
D'accord. D'ailleurs, au cours de cette émission, nous allons parler du nouveau projet que vous venez de sortir. C'est une mixtape. Chers auditeurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour le découvrir. Je reviens sur Jean-Pierre. Pour aborder le cœur du sujet, nous aimerions en fait entendre ton avis sur l'évolution de la poésie au fur des années. Quels sont les changements que tu as observés dans la poésie contemporaine?
J'ai combien d'heures pour répondre à ça? Non, la poésie, alors c'est surtout dans notre association, qui est une association vénérable, il y a plusieurs tendances. En fait, pour simplifier et peut-être même caricaturer un peu, grosso modo, dans le mouvement poétique actuel, il y a deux grandes tendances. Il y a ceux qui pensent que la poésie doit rester fidèle à des formes fixes, c'est-à-dire la métrique, la rime, voire rester fidèle au sonnet, au quatrain, l'alternance rime féminine, rime masculine, bref, tout un ensemble de formes.
La poésie traditionnelle, quoi.
Oui, on va dire classique. C'est comme ça que dans notre association, il y a un concours de poésie classique. Donc voilà. Et puis, il y a une poésie qui s'est affranchie de cela depuis tout le temps. Non, disons, depuis le XXe siècle. Hein, l'affranchissement de la poésie, c'est la fin du XIXe, c'est Rimbaud, c'est les poèmes en prose de Baudelaire, c'est Apollinaire, c'est le surréalisme. Donc tout ça a créé un autre élan. Et l'idée que l'on a à plusieurs et que l'on a dans notre association, c'est absolument de faire cohabiter les deux. Par exemple, pour les éditions, oui, nous n'avons pas d'autre politique que celle que nous estimons être de la qualité. Et la qualité, ça peut être une qualité en forme fixe, ça peut être une qualité en forme libre. Alors après, à un autre moment, j'essaierai de vous expliquer ce qu'on entend par qualité, sinon ça va être trop long. Oui. Mais je pense que le débat est là. Hein. Qu'est-ce que la qualité poétique? Où peut-on dire qu'il y a véritablement langage poétique si on échappe aux formes, aux rimes, aux structures? Où est la poésie? C'est sans doute là une des questions importantes pour la poésie maintenant.
Elle est dans le cœur de Douve et on le dit de bonne foi.
Et Gaëtan, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter sur ça? Quelle est ton opinion par rapport à l'évolution de la poésie contemporaine?
Je ne saurais pas trop quoi te dire exactement, car moi, je n'ai pas la prétention d'être un poète. Je suis plus un performeur. Mais de ce qui est de la poésie, en tout cas, moi, je voudrais revenir en tout cas sur comment tu as introduit ton émission sur le très beau titre de Kerry James et de Zao. Ouais. Je trouve que ça, c'était pas du rap, en fait. Pour moi, ça, c'était plus de la poésie. Et je trouve que dommage que cette culture ne soit pas plus mise en avant aujourd'hui, comme ça l'était il y a 10 ans en arrière, en fait.
Ouais, je pense que ce titre-là définit le concept de l'émission, parce que c'est un titre où on retrouve le rap, le slam et la poésie. Je le trouve vraiment intéressant. Oui, Jean-Pierre?
Alors, pour tout de suite entrer dans le cœur du débat et mettre tout le monde à l'aise. Il y a des gens, parmi les poètes vénérables, qui regardent avec une condescendance paternaliste, voire même autre chose, le rap et le slam. Je ne suis pas de cela. Je considère quelque part que le rap par ordre chronologique, puis le slam, ont redonné aux jeunes le goût du texte, le goût de la rime, le goût du rythme. Et ainsi, je pense que les enseignants en classe ont peut-être plus de facilité maintenant pour faire redécouvrir les grands classiques, parce qu'il y a cette culture du rythme et de la rime, bref, du langage poétique qui est entré maintenant chez nos gamins et qui est là. Alors maintenant,
tout à fait vrai.
Maintenant, évidemment, on va retomber sur ce thème de la qualité. Il y a un rap que j'aime beaucoup, il y a un rap que j'aime moins. Il y a un voilà. Après, c'est pareil pour la poésie. Hein. Il y a des poésies que j'entends qui ne me font rien. Il y en a qui me transportent. Donc il y a après, il y a la qualité. Mais au moins, je pense que grâce au rap, parce que c'est le rap qui est venu en premier par l'ordre chronologique, grâce au slam, eh bien, les jeunes dans nos classes, c'est à cela que je pense, les jeunes dans nos classes ont retrouvé le sens de l'écrit. Et ça, c'est très important. Et quelque part, ça relance la poésie vénérable, la vieille poésie ancienne, on peut la remettre à l'ordre du jour à l'aune du rap et du slam pour montrer que voilà. Et c'est donc très bien d'avoir mis ensemble ces trois manifestations parce que nous sommes largement cousins.
D'accord. Et j'ai une question que j'aimerais vous poser en parlant du rap et du slam. Est-ce que vous, en tant que partisan de la poésie classique, ça ne vous fait pas peur de voir que le jeune de ma génération accorde plus d'importance à la musique qu'aux paroles? Jean-Pierre?
Ah non, mais Jean-Pierre. le rap, c'est quand même pas mon... Mais...
En partant du postulat qu'effectivement, les gens vont préférer la musique aux paroles, sachant qu'il n'y a rien qui démontre que ce postulat est vrai. Après tout, on peut aussi qualifier de poétique l'écriture musicale, ouais, avec du solfège. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des poètes qui sont sortis du code du langage et de la langue pour utiliser d'autres codes d'écriture et faire de la poésie avec.
Ouais, je suis
moi, je me place vraiment dans le sens où, pour moi, il n'y a aucune différence dans mon vécu personnel entre la poésie, le slam et le rap. La première chose que j'ai rappé, c'était... Le joueur d'orgue de Barbarie de Jacques Prévert dans le recueil Paroles. Et après, j'ai commencé à rapper mes textes, mais j'écrivais déjà avant. Et quand j'écrivais de la poésie, ça ressemblait à du rap, mais j'écrivais bien des poèmes avec des formes fixes et dans des styles classiques. Mais un langage et une esthétique qui faisait penser au rap. Et ça m'a fait passer de la poésie au slam, au rap.
D'accord. Gaëtan, Théo, Arthur, vous, en étant des rappeurs et des slammers, est-ce que ces phénomènes où le jeune accorde plus d'importance à la musique influencent-ils votre manière d'écrire ?
Non, pas forcément. En tout cas, pas pour moi. Ça ne me touche pas tant que ça. Je ne me rends pas vraiment compte. J'ai plus l'impression que ça dépend de la personne, en fait. Y a des gens qui vont écouter plus la musique, d'autres plus les paroles. C'est vrai que pour ce qui est de la musique moderne maintenant et ce qu'on entend à la radio et sur les plateaux de télé, oui, on écoute beaucoup moins les paroles parce qu'elles veulent toutes dire la même chose quasiment. Donc on se concentre plus sur la musique. Mais ça, c'est encore d'actualité et ce le sera toujours dans quelques années. Je pense que ça évoluera pas comme ça. Par contre, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que cette musique-là qui existe. Il y a tout un panel de musique possible, que ce soit au-delà du rap même. Il faut pas l'oublier, je pense.
D'accord. Est-ce que la poésie classique a encore sa place au milieu des jeunes ?
Oui, complètement. Bien sûr. Moi, par le passé, j'ai eu aussi à donner des cours pour de la réinsertion chez des lycéens. Je donnais des cours de français histoire géo. Mon entrée avec ces élèves en décrochage, voire en absence scolaire totale, c'est-à-dire j'avais des élèves qui avaient l'âge d'un lycéen et qui n'avaient pas fait de collège du tout. En fait, je commençais systématiquement mes cours de français par une chanson de rap qu'ils connaissaient. Et comme ça, on pouvait commencer par étudier un petit peu la poésie sur quelque chose qu'ils avaient en main. Et ensuite, on progressait. Et je dois dire qu'on a quand même une année réussi à partir sur du Molière, l'Avare en texte original en fin d'année, quoi. Donc, c'était comme quoi c'était le bon média, la bonne porte d'entrée pour aborder tout ce qui retournait de la poésie et de la poétique.
J'en suis complètement persuadé. Utiliser le rap et le slam pour faire redécouvrir Ronsard, hein, parce que ça va être l'année Ronsard en 24 en passant, hein, pour faire redécouvrir Ronsard. Voilà, ça c'est un vrai challenge et je pense que c'est un challenge maintenant qui a plus de chances d'être réussi parce que les gamins ont retrouvé cette notion du rythme et de la rime.
Ils ont une habitude à ça qui fait qu'ils y ont une sensibilité plus élevée, effectivement.
Ça c'est sûr.
Alors après, on peut peut-être leur expliquer qu'on peut scander les textes un peu autrement. C'est tout. Voilà. Ouais. C'est la seule différence.
C'est ça.
Et en parlant des scandaux des textes autrement, nous allons faire une petite transition pour passer à la deuxième partie de notre émission. Et je vous laisse découvrir le poème de Victor Hugo, Demain de l'aube, interprété par les Frangines.
Ah, les Frangines.
Ils sont passés à la boboche il n'y a pas longtemps. Thank you.
par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Seul l'inconnu, le dos courbé, les mains croisées, je marcherai. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir.
Retour à l'antenne sur la Radio Campus 88.3. En écoutant cette chanson, la reprise du poème de Victor Hugo, j'ai une question à vous poser. Pour vous, c'est quoi la poésie? Est-ce que la poésie, c'est le fait de faire des rimes ou respecter une tradition? Pour vous, c'est quoi en fait?
Pour moi, la poésie, je vais partir de la base. À la racine du mot poésie, on trouve le verbe poienem, qui est le verbe créer. Et en réalité, si on se met à regarder la poésie avec un peu de recul dans l'histoire ou que ce soit, on va se rendre compte que ça va être très difficile de la définir de manière universelle. Parce que la poésie est une forme de création qui est difficile à dater. On ne sait même pas depuis quand on en fait. Et qui a proposé une multitude de formes de création dans une multitude d'esthétiques différentes. Et ça, ça la rend compliquée à définir, la poésie.
Absolument. Le cantique des cantiques dans la Bible, c'est déjà une immense poésie.
Tout à fait.
Alors moi, pour la poésie, on en a parlé un peu tout à l'heure. Moi, je reviendrai, parce que je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je partirai de ce que mes maîtres, mes professeurs à l'université me disaient. Il y a deux façons d'expliquer les choses. Soit on les explique de façon, pardon, de la répétition, on les énonce de façon explicite, c'est la prose, c'est-à-dire qu'on dit les choses clairement. La poésie, elle doit échapper à ça quelque part. C'est arriver à établir ce que les universitaires expliquaient, établir un écart entre le langage prosaïque, le langage de tous les jours, puisqu'on parlait de Molière, le langage de Monsieur Jourdain, hein, et la poésie. Alors cet écart, par quoi il se manifeste? Il peut se manifester par la forme, c'est entendu. Mais pas seulement. pas seulement, c'est-à-dire que il peut aussi se manifester par un langage qui échappe un peu à l'explicite, qui va chercher une autre communication qu'une communication immédiate, qui va essayer de mettre en place un pouvoir de suggestion. La poésie, elle n'est pas là, selon moi, pour expliquer. Elle est là pour suggérer, pour donner à penser, pour donner à imaginer. C'est un acte de communication avec le lecteur, l'auditeur. Pour moi, la poésie, elle doit être lue, l'auditeur, parce que c'est une autre communication que la communication immédiate. Et la poésie réussit, à mon avis, elle se situe là, dans cet écart. Si l'écart est trop grand et qu'on perd complètement les références, les refs, comme tu disais, je pense qu'on a perdu à la communication. Si l'écart n'est pas assez grand, c'est peut-être pas la peine d'écrire de la poésie, restons dans la prose, on y est bien. Donc il faut trouver cet écart. Et c'est là où se situe l'inspiration, le talent, le travail, l'expression poétique, voilà, selon moi.
D'accord. Et je reviens sur ce que tu viens de dire. La poésie, c'est d'abord un moyen de communiquer. On peut dire que la poésie, c'est aussi la première expression littéraire de l'humanité. Et c'est la poésie qui nous a permis de transmettre des valeurs et, je peux dire, même écrire l'histoire de l'humanité. Merci pour...
On pourrait même rajouter, parce qu'il y a des théories de linguistes qui vont dans ce sens, que la poésie est peut-être le premier moyen de création du langage oral.
Ouais,
ça il y a des théories aussi qui vont dans ce sens.
Ouais, je suis totalement d'accord.
Par le rythme et la répétition.
Absolument.
D'accord. Eh bien, au début de cette émission, nous avons mentionné que nous allons aborder la poésie ainsi que les rap et discuter de leur capacité à constituer une voix puissante pour exprimer nos émotions, dénoncer les injustices et offrir un cadre permettant aux artistes de s'exprimer librement. Et maintenant, j'ai une question à vous poser, chers invités. Comment ces nouvelles formes de poésie, entre autres le rap et le slam, peuvent-elles aider le jeune à exprimer leurs émotions de manière plus libre et authentique? Arthur.
Il va falloir un petit temps de réflexion pour construire ma phrase. Donc si quelqu'un d'autre veut dire avant, tant
alors,
que je réfléchisse.
Éventuellement, je vais essayer. Donc sur le fait qu'on peut par le rap ou le slam arriver à un moyen d'expression qui soit libre et qui plaise aux jeunes, et, effectivement, il y a déjà une grande porte ouverte, c'est que il suffit de regarder les chiffres et ça depuis 20 ans. Le rap, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. Il a bien fallu 5 ans à l'industrie musicale pour l'accepter. Et puis, une fois qu'ils ont vu les billboards, eh ben, ils n'ont pas eu le choix, comme avec le rock en son temps. Et du coup, évidemment, c'est éminemment populaire. Donc, comme tout ce qui est éminemment populaire, ça va toucher les jeunes et ça va leur proposer un tremplin beaucoup plus accessible que s'ils vont essayer de rentrer dans la poésie par Racine sur des textes originaux, typiquement. Mais néanmoins, c'est quelque chose aussi qu'ils vont pouvoir... c'est tellement imagé, la poésie est tellement large, qu'on a toujours moyen, même quand on dit « j'aime pas la poésie », c'est un aveu de dire « je n'en lis pas ». Parce qu'en réalité, si vous vous mettez à lire un tout petit peu de poésie, vous trouverez très rapidement, en 3-4 auteurs, facilement une petite dizaine de textes qui vont vous remuer. Et du coup, le fait de passer par le populaire dans le slam, dans le rap, sont d'excellents moyens ensuite d'aller pousser plus loin sur les esthétiques de la littérature, etc. On a d'ailleurs dans le rap des très bons exemples du sujet, comme Gaël Faye, qui a eu un Goncourt des lycéens avec son roman Petit Pays, et qui, par ailleurs, fournit aussi des albums de rap de très grande qualité. Voilà.
D'accord, merci. Et comment le rap peut aider le jeune à exprimer leurs émotions? Si on regarde cette société remplie des préjugés, comment le jeune en fait peut produire de la poésie, du rap, du slam, sans pour autant être dans un bulle en fait avec des préjugés?
Ouais, j'imagine que du coup, en écoutant le rap moderne et ce qui se passe maintenant, qui est beaucoup lié aux faits divers, au harcèlement et à tout ce qui peut se passer maintenant, bah, je pense que le jeune d'aujourd'hui, il doit se sentir un peu compris quand il écoute certaines musiques de rap, et à mon avis, d'essayer de le calquer sur sa manière de vivre et sur sa manière de faire. Ça doit passer sûrement par de l'éducation. Tout le monde n'est pas aussi sensible à tel texte suivant la personne, je pense. Après, c'est à chacun de trouver ce qu'on apprécie et d'y mettre de l'émotion. Je pense que c'est comme ça qu'on se sent le plus à l'aise quand on fait de la musique, qu'on écrit ou qu'on la chante.
D'accord. Jean-Pierre, tu as quelque chose à rajouter ?
Non, bah ça, je laisse les rappeurs parler du rap, ça c'est normal. Moi, je veux juste dire, j'ai une petite culture rap, alors c'est une culture de ma génération, mais moi, il m'est arrivé de faire des conférences sur le rap il y a quelques années. Je les faisais autour de, pour moi, les trois piliers du rap français, MC Solar, IAM, et NTM. Trois styles extrêmement différents. Ouais. Trois styles extrêmement différents, mais chaque fois. Bon, MC Solar, c'est facile, tout le monde va... Bon. IAM, l'album L'école du micro d'argent est pour moi un pur chef-d'œuvre littéraire. Quant à NTM, tout ne me sensibilise pas, mais le titre... laisse pas traîner ton fils, c'est quand même un morceau d'anthologie. Et c'est assez étonnant de voir comment le rap, qui est en révolte contre la société, est en même temps parfois extrêmement moralisateur, et moralisateur dans le bon sens. Voilà. Et puis dernière chose, maintenant je vais changer complètement d'angle.
Oui.
On n'a pas parlé de la chanson française, mais je voudrais rappeler... et ça va peut-être vous étonner, que dans la chanson française, il y a eu des précurseurs du rap, c'est-à-dire des gens qui ne chantaient pas leurs textes, mais qui les disaient sur scène. Je vois au moins... Alors, je vois deux grands exemples. Jacques Brel,
oui.
Je m'appelle Zangra. Hein, c'est un texte qui est dit complètement. Et puis, bien sûr, Léo Ferré. Quand Léo Ferré éructe, on ne peut pas employer un autre mot, le chien sur scène, il est déjà dans le rap. Quand il dit « Il n'y a plus rien », qui est un texte qui dure à peu près 13 ou 15 minutes, quand il le dit sur scène, c'est aussi un texte qui est complètement dit. Donc, quelque part, il y avait des racines qui après ont germé et ont donné. Donc, entre la chanson et le rap, il y a quand même des passerelles. D'ailleurs, vous l'avez fait remarquer tous, le rap est en train de glisser un peu vers la chanson, et le rap s'accompagne de plus en plus de musique. D'ailleurs, maintenant...
J'irais même dire se réaccompagne, à cause de la prééminence du hip-hop avant le rap.
Alors maintenant, on ne dit pas « j'ai produit un texte », non, j'ai produit un son. Et le son englobe tout.
Tout à l'heure... Théo, il a dit Bobby Lapointe.
Oui.
Lapointe, c'est qui pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas ?
Bobby Lapointe, c'est un chanteur, il me semble, des années 50. C'est quelqu'un de très poétique par nature. Par exemple, Bobby Lapointe, il a laissé traîner dans des jukebox des CD de 33 tours qu'il faisait passer dans des CD, dans des jukebox de 45 tours. Ce qui implique une petite contrainte technique, c'est que le CD va passer en accéléré. Et au lieu de les signer Bobby Lapointe, il les a signés Jacques Seller. Ça vous parle ? Et donc, c'est quelqu'un qui avait des sujets très populaires, parfois pour son époque, vraiment à la limite de choquer les bonnes mœurs. Il a parlé d'alcoolisme, il a parlé déjà du patriarcat et des gens qui frappaient leurs femmes. Et il a fait ça dans les années 50, encore une fois. Il n'était pas aimé de tout le monde, Bobby Lapointe, mais encore aujourd'hui, il a fait date dans la chanson française. Et c'est Oxmo Puccino, un excellent rappeur également du rap français, qui est là aussi depuis les débuts, qui dans une interview, en parlait comme sûrement le premier rappeur français. Parce que chez Bobby Lapointe, contrairement à Brel, par exemple, on va retrouver aussi quelque chose qui est très cher au rappeur, c'est la vitesse à laquelle il est capable de donner ses prosodies, etc., le rythme fou qu'il est capable de placer dans ses textes, ses écritures et leur retransmission à l'oral.
Brel le fait aussi de temps en temps. Mais Bobby Lapointe, c'est... avant tout un jongleur de mots.
Oui, c'est oui. Quelqu'un le takati takite takati takite, cuite-toi tes cocus, cuite-toi qu'attends-tu.
Voilà.
Ça, c'est typiquement rap et pourtant c'est les années 50.
Il est mort 50 et 60. Hein.
Ouais, oui.
Il est mort un peu trop tôt parce que je pense qu'il n'avait pas encore donné toute sa mesure, mais c'est quelqu'un qui a marqué de son influence toute la chanson française à texte des années 60, que ce soit Brassens, que ce soit Brel, que ce soit Béart, que ce soit un peu moins Ferré, mais véritablement il y a c'est quelqu'un dont qu'il faudrait remettre dans l'actualité, parce que la chanson française de qualité, bien sûr, pas la chanson que tu évoquais tout à l'heure, je suis d'accord avec
populaire.
Toi. Ouais, non, ça va. Mais cette chanson-là, Bobby Lapointe en est quelque part un fondateur. Et moi, il jouait dans les cabarets parisiens, les cabarets qui étaient le creuset dans les années 50 de la chanson française. Enfin, tous les grands sont passés par là. Et ça devait être absolument exceptionnel. Voilà.
D'accord.
Merci d'avoir signalé Bobby Lapointe. Respect.
Merci, Théo. Et en parlant des précurseurs. Du rap, et moi j'ai une question à vous poser en fait. Quelle est votre opinion par rapport à l'impact du rap, du slam, je dirais même de la poésie pour le jeune en fait?
Je dirais que c'est une bonne soupape de décompression en fait, pour le jeune qui vit isolé, pour celui qui grandit où il n'a pas forcément de repères, à qui on ne donne pas forcément les armes pour s'en sortir dans la vie. S'il n'écoute pas de rap, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être faire des bêtises, il va peut-être manquer de discipline. Que s'il écoute son rappeur ou sa rappeuse préférée, parce qu'il y a aussi des très bonnes rappeuses féminines,
oui.
Eh bien, je dirais qu'il va, se mettre dans une bulle et il va s'autodiscipliner en fait en écoutant du son, ou alors ou en se rendant à un festival où il va se déchaîner, où il va sauter dans la foule, où il va limite même chanter en même temps que son artiste préféré. Pour vraiment sortir toute cette rage qu'il a en lui. Je dirais que ça l'impacte de façon positive, en tout cas, à mon sens.
Ça dépend de ce que cette personne écoute.
Ça dépend ce que cette personne écoute, mais si tu écoutes du Ziak où ça parle de couteau, où ça parle de drogue dans les bâtiments, eh ben, mieux vaut en fait qu'il parle de ça dans ses textes plutôt qu'il le fasse dans la vraie vie.
Je rebondirais sur ce très vieux débat entre Praxis et Catharsis, en disant qu'on peut écouter des trucs horribles pour ne pas les faire et écouter aussi des trucs géniaux pour se mettre à les faire. Mmh. Les deux fonctionnent, c'est bien établi.
Donc, le rap a un impact positif et négatif dans...
Il peut avoir un impact négatif, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire. Ça dépend énormément de la personne qui va le recevoir. Il y a des tas de personnes qui reçoivent des choses horribles tous les jours et qui ne déclencheront jamais d'actes horribles alors qu'ils en reçoivent tous les jours. On peut penser à nos fonctionnaires, des pompiers, des policiers. Ils ne sont pas tous à reproduire les horreurs qu'ils voient au quotidien. Et en fait, il en est de même pour l'auditeur, le lecteur, la personne qui va regarder une toile ou une sculpture.
Ou l'artiste en lui-même.
Voilà.
Ouais, c'est ça. On peut dire que toute œuvre a son côté noir, comme disent les jeunes.
Mais... Je dirais que le côté noir, c'est le côté de l'artiste, en fait, qui il s'en sépare, en fait. Toute cette rage, toute cette haine qu'il a en lui, bah, il la retranscrit sur un calepin, et derrière, il enregistre sur MP3, et puis après, derrière, ça lui appartient plus, et l'auditeur, il en fait ce qu'il veut.
D'accord. Et j'ai une question pour vous, Gaëtan, Théo et Arthur. Quels sont les défis auxquels le jeune poète, rappeur, slammer sont confrontés aujourd'hui?
Oh, je pense que c'est monter sur scène l'un des plus grands défis pour certains. La timidité et le fait de pas forcément être à l'aise. Parce que oui, écrire, c'est une chose, mais après, réciter ce qu'on a écrit et ce qui nous touche à cœur, faire partager toutes les émotions qu'on a gardées et qu'on a fini par expulser sur le cahier, ça, c'est une vraie épreuve, je pense, pour la personne qui voudrait y aller. Bah,
ça dépend des gens.
Ça dépend des gens. T'en as qui seront plus à l'aise. Moi, je sais que pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'était compliqué les premières fois sur scène. Moi-même aussi.
Mais une fois que t'as passé ce stade, là où il y a un autre défi qui est de taille, c'est de se distinguer par rapport aux autres artistes.
Ouais.
Parce que maintenant, t'as de tous les univers, en fait.
Vous avez parlé de l'aspect spectacle, mais moi, en fait, je voulais avoir votre avis par rapport à l'aspect technique. Quels sont les défis, en fait, que vous rencontrez quand vous écrivez? Des fois, quand tu commences un texte, t'as pas d'inspiration. Comment tu fais, en fait, pour... On peut surmonter ça.
On peut s'inspirer de l'actualité ou de ce qui s'est passé il y a 50 ans ou même avoir des textes futuristes, s'imaginer un monde un petit peu plus utopiste. Je ne sais pas si j'ai bien dit le mot, c'est bien comme ça qu'on dit.
Oui,
ok, c'est bon. Donc, libre cours à ton imagination, je dirais. C'est un défi de taille, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'une fois, on est là, on se dit « Ouais, ce soir, je vais écrire un texte de ouf et tout et quand je vais l'enregistrer, ça va être bien ». Mais une fois qu'on est face à la feuille, faire le premier pas, c'est le plus difficile. Mais une fois que t'as mis le pied devant, ça, en général, ça coule de source. C'est souvent comme ça que j'écris, en tout cas.
Et oui.
Moi, pour ce qui me concerne, comme j'écris déjà de base, il m'est arrivé un peu toutes les configurations. J'ai des poèmes qui se sont transformés en couplets de chansons tout en restant un poème. J'ai des poèmes qui n'ont pas abouti puis se sont retrouvés par fraction dans d'autres textes que je vais slammer ou chanter. J'ai à cœur de mettre dans mon esthétique deux choses, la polysémie d'une part et de toujours ouvrir un maximum de sens, et d'autre part de mélanger justement la poésie classique et la chanson populaire. Donc j'aime bien mettre de la chanson populaire dans mes poèmes et mettre de la poésie classique dans mes chansons. Derrière, pour ce que tu disais sur la feuille blanche, etc., oui. Au risque d'en décevoir certains dans les auditeurs, moi je prône le travail, le travail, le travail et le travail. Si vous êtes passionné, bossez. Et en fait, la page blanche, si vous avez l'habitude de travailler, elle s'évacuera très vite.
Pour renforcer ce que tu viens de dire, il y a une phrase de Picasso. Picasso n'est pas mon maître à penser, hein, mais cette phrase-là, je l'aime bien. Le talent est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration.
Merci Jean-Pierre.
C'est validé.
Ouais. Merci. Ouais.
Et justement, Jean-Pierre, j'ai une question pour toi. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté lorsque tu as commencé à écrire quand tu avais notre âge, en fait? Quels ont été les défis?
Bon, disons que le problème ne se posait pas parce que ce que j'écrivais, je l'écrivais pour les destinataires choisis, c'est-à-dire la petite copine et tout ça. Et puis après, j'ai gardé par-devers moi. Je savais, parce que ça, on le sait très tôt, que la poésie, c'est très difficile à éditer, etc. Puis, mais après, quand je suis entré à la Société des Poètes Français, parce qu'il y avait une maison d'édition, là, j'en ai profité et puis j'ai édité un petit peu. Mais le problème du poète qui ne veut pas, qui ne peut pas ou qui n'a pas choisi d'entrer dans le slam et le rap, c'est-à-dire choisir le studio et la scène, c'est l'édition poétique. Le paradoxe de la poésie en tant que telle dans notre époque, c'est que je suis persuadé qu'on n'a jamais eu, depuis le début de l'histoire de l'humanité, autant de gens qui écrivent des poésies. Mais la poésie ne s'édite pas, ou du moins quand elle est éditée, elle ne se vend pas. C'est pas un bon marché. La poésie, c'est pas quelque chose qui est rentable. Donc toute la problématique est là. C'est pour ça que à la Société des Poètes Français, ce que nous essayons de faire avec nos adhérents, c'est leur donner plusieurs fois l'occasion de publier leurs textes dans les petites choses que l'on fait, que ce soit des cahiers ici, que ce soit des festivals, tout ça, parce que c'est un acte de communication, et moi je pense que la poésie, elle n'a sa vérité que lorsqu'elle est lue et entendue. Elle n'est pas faite seulement pour être lue, elle est surtout faite pour être entendue. Et en cela, je rejoins mes cousins du rap et du slam.
Je dirais même que ça devrait, que ça se ressent en fait. Oui, ça trouve sa vérité quand l'auditeur ressent en tout cas ce que l'auteur a voulu retranscrire, en tout cas.
Compris, quoi.
Ouais, je reviens sur Jean-Pierre. Tout à l'heure, tu as dit que tu as commencé à écrire tard. En fait, je voulais savoir...
Publié
tard, voilà. En fait, quels étaient les déclics, en fait?
Le déclic. En fait, j'ai commencé par publier des proses, c'est-à-dire que j'ai écrit des romans. Et le déclic, en fait, c'est comme j'ai travaillé pendant 25 ans en Afrique, je suis rentré en France en 2000, et en 2000, j'ai découvert Internet.
Donc en fait, le déclic, ça a été Internet. Et j'ai découvert sur Internet des sites de poésie et d'écriture partout, partout. Quand je commençais à faire ça, un jour, je suis resté devant, je regarde mon réveil, 4 heures du matin, je dis « Oh, quand même, là, t'as dépassé les bornes ». Mais donc, ça m'a débloqué. Et c'est comme ça que je suis entré dans différentes associations, et de l'une à l'autre, je suis arrivé à la Société des poètes français. Internet m'a débloqué complètement, a libéré mes envies d'écrire, parce que sur l'écran, bah, c'est facile, quoi. Ça part, on est là. L'écran, là, je sais que mes amis à l'association ne sont pas toujours d'accord avec moi là-dessus, mais pour moi, l'ordinateur, c'est pour écrire, je n'écris que sur ordinateur, c'est un brouillon qui est toujours propre. Je veux dire par là qu'on corrige, on ne laisse pas les ratures, puisqu'on efface, on réécrit dessus. Donc c'est toujours propre, et le seul problème, c'est de savoir le moment où ça y est, c'est fini. C'est là, à quel moment on a fini. C'est là la difficulté.
C'est ça. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, moi, je pense que rien ne remplace un bon bloc-notes et un bon crayon pour écrire, en tout cas. Et même certaines ratures, en tout cas, bah, même s'il y a des ratures, tu peux te reprendre derrière. Et quand bien même si tu fais une faute, bah, il faut laisser libre cours à cette faute pour derrière, après, poursuivre. Et pourquoi pas enchaîner sur quelque chose de mieux, je dirais. Mmh. En tout cas, parce que c'est vrai, ce que tu dis, c'est que quand on écrit sur papier, même moi, quand tu écris sur ton téléphone, enfin, moi, j'écris sur mon téléphone. Tout à l'heure, tu disais que tu écrivais sur ordinateur. Le plus difficile, c'est de savoir quand est-ce qu'on s'arrête, en fait.
L'iPad, moi, c'est l'iPad, mon instrument.
Ouais, je vois bien. Ouais, le tactile, tout ça.
Ah ouais,
et c'est difficile de s'arrêter, parce qu'une fois que t'es lancé, tu sais pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Et je dirais même que, bah, sur papier, c'est plus ou moins la même problématique. Mais ça a plus son charme, je dirais, d'écrire sur bloc-notes et de se dire, bon, de mettre une bonne grosse rature et de mieux reprendre derrière, en tout cas. Ouais. Je trouve que c'est plus original.
Mais ça, c'est chacun sa méthode, et je ne prétends pas que... Mais moi, on m'expliquait mon itinéraire, c'est ça. En revanche, quand j'écris des proses, je passe toujours par l'étape papier. Impression et relecture et rature. Mais les proses, la poésie, je la laisse plus se dérouler sur le numérique.
Chacun a sa méthode. Le plus important,
absolument,
c'est l'inspiration. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur la Radio Campus 88.3. Et nous arrivons doucement vers la fin de notre émission. Jean-Pierre, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux me dire vite fait, quel est le message que tu peux donner à un jeune qui souhaite s'élancer dans la poésie ?
Ben, un peu ce que mon voisin disait, c'est-à-dire qu'il se laisse aller. Il ne faut pas que la poésie soit une contrainte, il faut qu'elle soit une inspiration, une envie. Si tu as envie, fais-le. Voilà, et va jusqu'au bout de tes envies. Ça, à mon âge, je peux le dire quand même.
Il faut la vivre.
Ouais. Est-ce que tu peux nous partager un de tes textes, s'il te plaît?
Là, c'est un piège, ça. Alors, c'est un texte que j'ai écrit à partir du thème du Printemps des Poètes 2023.
Oui.
Le thème... Attends, faut que... Là, il y a un problème sur mon... C'est un texte que j'ai écrit à partir du thème du Printemps des Poètes 2023, Frontières. Alors, je suis parti sur Frontières, mais vous allez voir... C'est des frontières qui sont un peu curieuses. Frontières, franges d'écume aux marges de ta beauté, parfum d'aurore sur le bord de tes lèvres, esquisse effleurée d'une poésie nue, soupir de verbe émeraude dans la nuit. Frontières, caresse de mots posés sur tes interdits, silence bruissant d'un froufrou digital, pianiste inventif qui arpège le bonheur sur la partition froissée des frissons. Frontières, géométrie gymnique des figures sonores où s'harmonise l'osmose des symphonies dans les couleurs imbriquées du désir quand le ciel s'embrase de métaphores. Frontières, où es-tu? Où suis-je? Où sont nos vies unies dans l'immensité d'un instant d'éternité? Horizon d'illusion qui ouvre l'azur au vent
et annule d'un spasme étoilé toute limite. Frontière, utopie idiote de vouloir enfermer la mer, démence insensée de penser cindre le désert, alors que dans ma folie lyrique et mythique, je m'obsède d'abolir tous les traits tracés par l'amour fantasmé d'une muse inconnue.
Bravo.
Bravo Jean-Pierre et merci pour ces beaux textes. Wow. United Creuil. Au début de cette émission, nous avons rapidement mentionné votre nouveau projet, une mixtape. Mais qu'est-ce qu'une mixtape en fait ? C'est quoi une mixtape ?
Alors c'est une net tape.
Net tape, voilà.
Ça veut dire que c'est une bande sur la toile, littéralement. Donc ça veut dire qu'on a fait un projet musical, mais qu'il n'est pas matérialisé. Vous ne pourrez pas le trouver en magasin, parce que ça coûte très cher d'imprimer des CD ou des vinyles. Mais par contre, vous pouvez gratuitement aller l'écouter intégralement sur la plateforme YouTube ou la plateforme SoundCloud.
D'accord. Et quel est le message véhiculé à travers de cette NetTech ?
L'amour, le respect, l'unité, le partage et coexister entre nous. Peu importe ta classe sociale, peu importe qui tu es, d'où tu viens, si tu as envie d'être une fille ou un garçon, on est ensemble. C'est ça que ça veut dire.
Niofar.
Wantanara.
Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous faire un de ces titres
pour... Oh non, non, on n'a pas envie.
histoire de donner aux auditeurs l'envie Allez. D'aller le découvrir.
Juste avant de placer le son, juste comme ça, j'en profite. C'est pas pour faire de la pub, enfin, c'est... Mais pour les poètes...
ou les chanteurs...
Pour les artistes qui nous écoutent, bah, je vous donne rendez-vous ce jeudi 27 juillet à 19h au Petit Bocal. J'organise un atelier d'écriture, voilà. Et puis, si vous souhaitez prendre le micro, vous exprimer, partager votre univers, vous êtes les bienvenus.
C'est où voilà. Le Petit Bocal ?
C'est
le
la rue Bourgogne, juste en face de la préfecture.
Voilà. Allez, on y va.
C'est carré. Parti Alonso.
Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh.
Check.
Bienvenue dans Orlin City. Plus de fric que d'habitants. Tu veux du taf, pourquoi pas la réussite? Bouge pas, t'es sur la liste d'attente. Bienvenue dans Orlin City.
City Gang.
Plus de fric que d'habitants. Tu veux du taf, pourquoi pas la réussite? Bouge pas, t'es sur la liste d'attente.
Yeah. Casse-dette aux racailles qui vont squatter place d'Arc, c'est les mêmes. Dans la rue des Carmes, est-ce que tu veux de la cam? Mais si tu n'en veux pas, toujours moyen d'intégrer un poster.
Encore pire dans le parc
Pasteur.
Vers la champignon, passe et passe encore quelques poseurs, mais toute première
connexion.
Comme chaque soir d'été, posé sur les BDL. Le 7, mais cet électro comme d'hab,
on a mis le bordel. Ça commence rue de Bourgogne, ça finit dans la part d'un man
que tu connais même pas.
Tout le monde danse et la samba. Quand tout le monde s'en va, t'as perdu ton téléphone.
Top modèle, y sont les femmes. Quand elles m'inspirent ces fables dans un cadre idéal, non loin de notre belle cathédrale. Les chiens d'Orlin, c'est comme ça qu'on nous surnomme. On arrive en surnombre, ça sent la tarpin d'orgie.
Les origines, terre massive, le café Monsieur Chat font la culture de notre agglomération. Diversité dans les cultures, dans ces rues, c'est la richesse pour les futures générations. Hommage à ces vieux mères qui verbalisent tous les sans-abri. Dommage, quand je ferai mes valises, ce sera pour partir en mer. En attendant, on compte toujours faire du bruit.
Orlins, ça dit quoi? Le clip sur YouTube.
City Gangs,
Radio Campus.
Bienvenue dans Orlin City.
City Gang.
Plus de fric que d'habitants. Tu veux du taf, pourquoi pas la réussite? Bouge pas, t'es sur la liste d'attente. Bienvenue dans Orlin City.
City Gang.
Plus de fric que d'habitants. Tu veux du taf, pourquoi pas la réussite? Bouge pas, t'es sur la liste d'attente.
Yeah. Bienvenue dans le 45 où les minots te mettent carottes et drapent ta minette. À 18h, voitures cyclistes ne savent plus conduire. Quelques rayons de soleil et ça se croit à Marseille.
Ça taffe sur la capitale ou dans un hôpital.
Force à toi, debout dès l'aurore. Il faut faire les sous d'abord.
Dès lors que le changement devient primordial. Et gardons le dialogue, j'ai vu des vestes se retourner. Alors je donne les talents. Et si t'as du talent, tu sais où nous retrouver.
C'est là, c'est pour celles et ceux qui ne veulent ou ne peuvent plus partir. Le cœur et le compte en banque aura bien ses raisons.
Pour tous les martyrs, ceux qui dorment par terre.
Cet enfant me demande pourquoi ils n'ont pas de maison. La plupart du temps, ici ça pue l'ennui. quand tu t'éclates, un conseil, prends ton pied.
Je connais cette ville par cœur, j'y ai marché la nuit pour un kebab, rapper, m'évader et puis rentrer à Yep.
Celle-ci c'est pour les familles, les soudés, les séparés, celles qu'on continue d'opprimer. Les chauffeurs, contrôleurs, les fraudeurs, notre ville est libre, tâchez de ne pas l'oublier.
Rendez-vous le 27 juillet.
Bienvenue dans All In City,
City Gang. Le numéro 45, s'il vous plaît.
Merci les gars. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux?
YouTube, Facebook, merci. Instagram, SoundCloud, YouTube. Ouais.
D'accord. Voilà. D'accord. Merci encore Gaëtan, Théo, Arthur.
Merci à toi.
Je vous rappelle que leur projet est toujours disponible dans toutes les plateformes de téléchargement, notamment YouTube et SoundCloud. Merci également à Jean-Pierre Polak d'avoir honoré notre invitation. Quant à vous, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne écoute sur la radio Campus 88.3.
Passez une bonne soirée.
Ouais.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Mmh.